Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et sans plus tarder, nous allons accueillir Martin Mongin. Bonsoir Martin.
Oui, bonsoir Corinne.
Merci beaucoup de nous rejoindre pour
Merci
nous parler de votre premier roman qui est paru récemment au troisième trimestre de cette année aux excellentes et fantastiques éditions Tusitala, on ne le dira jamais assez. Juste, votre métier, quand vous exercez le métier sérieux, vous êtes professeur de philosophie, n'est-ce pas ?
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça.
On peut dire ça.
Donc ce roman qui s'appelle Francis Rissin, je viens de le dire, il est paru aux éditions Tusitala. C'est un petit éditeur, comme je l'ai dit, malheureusement pas suffisamment connu, qui publie surtout de grands auteurs américains. Comment cet ouvrage est arrivé aux éditions Tusitala ?
Alors c'est un peu toute une histoire. Hein. C'est que donc moi j'ai écrit ce texte, ce livre. Et peut-être un peu comme tous les gens qui écrivent des livres, j'ai commencé par l'envoyer un peu aux grandes maisons d'édition. Mais alors comme c'est un peu un pavé, je ne pouvais pas vraiment me permettre d'envoyer à chaque fois le manuscrit complet à tout le monde. Donc j'ai envoyé un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et puis sans doute, comme beaucoup de gens qui écrivent des livres, j'ai pas eu de réponse, ou presque rien, ou une réponse un peu type. Bref, et donc moi, finalement, j'ai pris la décision d'en faire une auto-édition de ce roman. Je trouvais ça bête qu'il dorme sur mon disque dur. Donc j'en ai fait une auto-édition à une centaine d'exemplaires, comme ça il a pu circuler un peu auprès des copains, des proches, tout ça. Et puis malgré tout, le temps a passé, je me disais, ah, c'est trop bête que 100 exemplaires, c'est chouette, mais c'est pas beaucoup non plus. Et l'idée m'est venue que peut-être que ça n'avait pas marché auprès des éditeurs français, mais peut-être que ça pouvait marcher auprès des éditeurs des francophones, mais des pays voisins, quoi. Et donc j'ai une amie qui vit à Bruxelles, et donc je lui ai demandé, tiens, est-ce qu'elle aurait pas idée de quelques éditeurs belges qui pourraient être intéressés par un livre comme celui-là, qu'elle avait lu justement dans sa version auto-éditée. Et je crois qu'elle a été voir son libraire en bas de chez elle, et le libraire lui a dit, eh ben oui, mais si, il y a les éditions Tusitala, voilà. Et donc moi je leur ai envoyé le livre auto-édité. Ça faisait un gros pavé dans une enveloppe,
oui,
là.
J'imagine.
Et voilà comment c'est tombé dans leur boîte aux lettres.
Voilà, et c'est arrivé dans les mains de Michael de Metz, qui fait un très très beau travail d'édition, avec en particulier des chartes graphiques absolument magnifiques. Donc, cet ouvrage que moi j'appelle des miscellanées, on y retrouve 11 textes, 11 mini-romans, des novellas, pour essayer de cerner, de comprendre, de trouver quelqu'un d'indiscernable, en fait, qui s'appelle Francis Rissin, qui apparaît comme omniprésent, omniscient, et surtout à beaucoup de moments comme le sauveur de la France. Comment vous est venue cette idée déjà d'incarner et de parler de ce personnage avant de parler de la forme ?
Peut-être moi ce que je pourrais dire c'est que la question du pouvoir est une question qui m'intéresse de longue date. La question de la prise de pouvoir, on pourrait dire. Et sans doute que là, dans le livre, elle apparaît de deux manières différentes. C'est à la fois l'individu un peu lambda qui peut avoir envie comme ça d'incarner le pouvoir et d'arriver au sommet de l'État. Et qui donc, parce que c'est un peu ça le ressort au début du livre, c'est des affiches qui apparaissent un peu aux quatre coins du pays, dans les villes, dans les campagnes. Et c'est des affiches sur lesquelles apparaît juste le nom Francis Rissin, voilà. Donc c'est évidemment bien mystérieux. Au départ, on se demande qui c'est ce type. Et on se rend compte que progressivement, les Français commencent un peu à s'emballer. Ils commencent à se dire, tiens, mais peut-être que lui, il sera différent des autres. Peut-être que c'est l'homme providentiel qui va nous tirer de la crise et du marasme. Et de l'autre côté, bah oui, il y a le pouvoir en place qui commence à s'inquiéter, les forces de l'ordre qui partent à la recherche de ce type et puis qui n'arrivent pas à le trouver, tout ça. Donc oui, à la fois ce truc de celui qui a envie de conquérir le pouvoir, on va dire, et de l'autre côté aussi, c'est aussi les Français qui ont cette espèce de désir d'un homme providentiel, quoi. Et c'est comme si là, dès qu'il y a ce nom qui fleurit un peu partout sur les murs, et ben immédiatement on a envie d'y projeter notre désir et notre envie d'avoir quelqu'un qui va sauver le pays à notre place, quoi.
Alors nous, on a pris ça comme un roman noir, mais on pourrait parler beaucoup de la case dans laquelle ranger cet ouvrage inclassable. Si je dis aussi que c'est un roman des temps présents, Est-ce que je me trompe, roman qui correspond à un instantané, et je trouve que ça correspond particulièrement bien aux années 2018 et 2019, en ces fins d'année, et aussi de ce que pensent consciemment ou inconsciemment d'ailleurs les Français qui ont quand même, on ressent une culture commune.
En tout cas, moi j'ai l'impression que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'essayer de saisir quelque chose de notre époque ou de notre présent. Et peut-être paradoxalement, j'ai quelquefois l'impression que la fiction, elle est plus à même de rendre compte du réel, quoi, presque plus que quelquefois un essai ou des textes plus théoriques, on va dire, et que les libertés que donne la fiction, bizarrement, elle permet quelquefois d'être plus juste par rapport à ce que peut être l'ambiance d'une époque. On pourrait dire quelque chose comme ça.
D'autant plus.
Non, après, oui, moi j'ai l'impression que c'est ambivalent dans le sens où, à la fois, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très français, justement, dans ce truc d'un désir d'un homme providentiel. Bon, ça pourrait être aussi une femme providentielle, d'ailleurs. Et qu'en même temps, c'est comme si là, dans le présent là, vraiment d'aujourd'hui, on ressentait, et peut-être que par exemple le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça qu'il a incarné, le fait aussi d'une sorte de grand ras-le-bol, de dire tous ces prétendus hommes providentiels qui apparaissent comme ça et qui nous vendent leur remède miracle pour tirer le pays de la crise ou je sais pas quoi, et bien en fait oui, on en a marre, quoi. On en a marre de ces hommes providentiels.
Et donc, on va chercher un homme lambda qui apparaît, on ne sait pas vraiment comment, qui va prendre le pouvoir, on ne sait pas vraiment comment, et surtout, de toute façon, si quelqu'un le comprend, il ne faudra pas le raconter aux autres lecteurs. Et donc, trouver son nom, ça n'a pas dû être facile de trouver ce nom de ce héros qui arrive de manière différente dans ces 11 récits. Donc, Francis, on a bien compris qu'il y a la France qui n'est pas loin. Et Ricin, alors ?
Bon, en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça, hein, parce que, alors moi, je voulais quand même que ce soit un nom d'un homme, hein, ça me paraissait plus juste quand même que ce soit un homme qui incarne cet idéal du sauveur de la nation. Enfin, on pourrait en discuter longuement, mais bon, bref. Donc, il fallait qu'il y ait en effet qu'on entende le signifiant France, donc c'était Francis, ou ça aurait pu être François. Et donc, je voulais que les initiales, ça fasse aussi FR, donc voilà, donc ça se mettait en place. Et puis, je trouvais ça chouette qu'il y ait un peu une allitération. Bon, donc Francis Ricin, et puis le Ricin, bah, c'est évidemment ce poison, hein, donc voilà, ça marchait. Francis Ricin, puis il fallait aussi que ce soit un nom qui paraisse un peu réel, quoi, un nom qui pourrait être celui de notre voisin de palier, ou de, bon, voilà, Francis Ricin.
Ricin, alors je précise, dans le livre, c'est Ricin 2S, parce que le Ricin poison, c'est avec un C. Mais si je ne m'abuse, ce Ricin, selon les doses, c'est tout à la fois un poison, ou au contraire, quelque chose qui peut soigner. Ça va bien, ce personnage.
Vous avez bien raison de le faire remarquer, et c'est peut-être tout le mouvement de bascule du livre, c'est qu'on pourrait dire que dans sa première moitié, à la fois les Français, on va dire, mais aussi peut-être les lecteurs, peuvent avoir l'impression que le Ricin va être une certaine forme de remède, et puis il y a un point de bascule où on dépasse la dose prescrite, et le remède se change évidemment en poison.
Alors donc il y a une mosaïque de regards, une mosaïque de textes, une mosaïque aussi d'écriture, puisque en fait on va passer d'un compte-rendu universitaire, il y a une enquête policière à un moment donné, il y a aussi une exposition qui est à la gloire de Francis Ricin, il y a aussi, je dirais, les exercices de style qui ont dû être... Qui ont prévalu aussi beaucoup à l'écriture de ce roman, de trouver à chaque fois une écriture totalement différente pour 11 textes qui sont 11 visions différentes.
Ouais, alors après là, moi j'ai l'impression aussi que ça a été une façon pour moi de m'amuser, hein, et moi je suis un grand lecteur et je lis évidemment des textes qui viennent de domaines aussi variés que, oui, le polar, le fantastique, les classiques, la philosophie, de tout ça, et je trouvais ça amusant en fait, d'avoir cette dimension un peu kaléidoscopique. avec à chaque fois des textes qui ressortent de registres différents et qui jettent ou qui donnent à voir en fait ce personnage avec un prisme différent, on va dire. Voilà, alors quelquefois ça devient même burlesque et puis c'est une écriture peut-être plus qui va chercher plus du côté de l'humour, et d'autres fois des choses plus graves, plus sombres. Bon voilà, il y a vraiment un truc d'une sorte de palette un peu.
Oui, une palette avec et puis aussi des textes très littéraires. Il y a le premier texte en particulier, cette recherche d'universitaire qui est à la recherche d'un auteur qui aurait écrit sur Francis Rissa. On a une espèce de mise en abîme. Vous convoquez aussi, vous parlez de prisme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi tous les codes sociaux et tous les aspects de notre société, parce que il y a le judiciaire. À un moment donné, on a dit le policier, mais le judiciaire, il y a le politique, il y a beaucoup, beaucoup de politique. Il y a aussi le religieux, parce qu'à un moment donné, on a parlé d'homme providentiel, il est montré presque comme un dieu, comme un rédempteur, comme un messie qui arrive sur la France.
Oui, ben ça c'est pas. En effet, hein, ça, moi je trouvais ça intéressant de relier la question politique à la question religieuse. Et il y a évidemment quelque chose sans doute. En tout cas, peut-être que c'est un prisme justement par lequel on peut comprendre un peu la question politique, de la faire passer à travers le prisme du religieux. Et en effet, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu christique finalement dans ces figures politiques comme ça qu'on élit et puis qui prennent d'un seul coup les pleins pouvoirs et puis qui se comparent elles-mêmes bien souvent à des dieux ou à des demi-dieux. Bon. Mais aussi quelque chose, oui, de l'ordre de la foi, en fait, hein. C'est à la fois l'homme ou la femme politique qui se prend pour un dieu, mais c'est aussi les électeurs, on va dire, qui font une sorte d'acte de foi et qui vont croire presque dans la parole un peu messianique de celui qui font passer pour un messie, c'est vrai, ouais.
Oui, cette parole messianique qui portée par une grande majorité des Français, voire tous les Français, ça rappelle aussi quelques grands moments d'histoire dont on se souvient aussi. C'est qu'à un moment donné, on va basculer et finalement, quand il devient président, il va instaurer pratiquement une dictature.
Oui, c'est ça. Alors il y a ce philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, moi que j'aime bien, et qui dit, mais c'est une sorte de mise en garde, qui dit il faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le réclament, parce que celui qui réclame le pouvoir, évidemment, il va toujours être tenté à un moment donné, et souvent très rapidement, de s'en servir à son propre avantage, quoi. Et là, c'est un peu ce que ça raconte, c'est que il y a ce type un peu lambda, peut-être qu'il a des idéaux, peut-être qu'il a des vues, qui pourraient profiter éventuellement à tout le monde. Et en vérité, dès qu'il a le pouvoir dans les mains, il le retourne pour servir ses intérêts propres. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'histoire qui se répète.
Oui, c'est une métaphore de beaucoup de moments d'histoire dans beaucoup d'endroits du monde.
C'est une histoire dont on commence à en avoir un peu marre, quand même.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il est très salutaire de lire ce type de roman, et je le recommande fortement. Quand il prend le pouvoir et qu'il y a vraiment cette partie du roman, ce chapitre, ils en font à peu près 60 pages, hein, c'est un roman qui fait plus de 600 pages. Donc dans cette partie, il y a aussi toute une réflexion, il réinstaure la peine de mort, et la majorité des gens, par contre, sont totalement d'accord. Ça fait un peu froid dans le dos, franchement, parce que on y croit totalement. Que si quelqu'un proposait maintenant de restaurer la peine de mort, eh bien la majorité des gens, des électeurs, je ne sais pas dire exactement qui, mais serait pour.
Oui, alors bon, je sais pas, sans doute que dans ce livre, il y a un peu un état des lieux de la période dans laquelle nous vivons, et qui est sans doute une période un peu sombre et un peu troublée, voilà, hein, et en effet, c'est des choses qui paraîtraient crédibles, même si, bon voilà, en face, hein, on a l'impression qu'on est un peu à un moment pivot, là, quand même, de l'histoire de notre pays, hein, bon, je sais pas, et...
Non, aussi, on commence à voir, on espère, on voit peut-être un pivot, effectivement, et puis il y a eu justement, donc, vous avez parlé des Gilets jaunes, ce livre est paru au troisième trimestre 2019, je suppose que, puisque vous avez parlé de cette histoire d'auto-édition, il a été écrit bien avant le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a de temps en temps des manifestations, on pourrait voir quelques ressemblances.
Non, il a été écrit, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû terminer la première version en 2015.
Ah oui.
Quelque chose comme ça, ouais.
Ah, c'est presque prémonitoire, alors, on est presque
ouais,
dans bah, le...
C'était après Sarkozy, c'était pendant François Hollande, et c'était avant Macron, hein. Avant
D'accord.
Macron-Jupiter, voilà.
Donc, effectivement, salutaire à lire. Ce qui est remarquable dans ce roman, moi j'ai parlé de cette espèce de portrait robot qui serait l'homme à qui rêveraient tous les Français, c'est la topographie que vous faites aussi de la France. C'est-à-dire que dans chaque histoire, on va se retrouver dans des petits villages, dans toutes les régions de France, on va se balader. Tous les noms de villages sont vrais. Enfin, moi il y en a plein que j'ai reconnu,
bien sûr, ouais.
Mais je connais pas tout.
Non, bah alors ça c'est à la fois mon goût quand même pour le, on va dire les échappées géographiques et voilà moi hein, pendant les vacances j'aime bien aller dans les replis du territoire, aller découvrir tous ces lieux incroyables, voilà, hein, qu'il y a souvent pas très loin de chez soi. Mais c'est aussi une façon peut-être de montrer que là où justement le pouvoir veut faire exister un peu le mythe d'une sorte d'unité nationale, voilà, et parle de tous les Français et le destin de la France, voilà, voudrait créer une espèce d'unité comme ça un peu artificielle. En vérité, voilà, la France, elle est faite d'une multitude de villages, de cultures, d'individus. Et moi, je trouvais ça chouette de donner à partager un peu cette infinie multiplicité, voilà, qui est évidemment une richesse incroyable et qui malheureusement aussi a tendance un peu à être à trop être homogénéisée, on peut avoir l'impression parfois quand même.
Oui, et il y a alors multiplicité de noms de villages, multiplicité de personnages aussi, et là aussi c'est pareil. Une multiplicité de regards, parce que déjà des dizaines de noms, fallait les trouver, tous ces noms, et vous touchez toutes les couches de la société, c'est-à-dire qu'on va côtoyer le paysan dans un recoin de Bretagne, comme celui qui va organiser une exposition au Centre Pompidou. C'est pas évident de se mettre dans le langage, dans la syntaxe de chacun de ces personnages que vous avez convoqués pour évoquer Francis Rissin.
Ouais, après justement, moi j'ai l'impression de pas avoir été jusqu'au bout non plus de ce que serait un exercice de style où à chaque fois je me serais efforcé de vraiment coller au plus près de la langue des uns et des autres, quoi.
Oui, il y a moins de dialogue.
On rencontre des personnages, voilà, en effet issus de plein de lieux différents, de plein de couches de la société, mais j'ai aussi essayé quand même de du point de vue du style, ça il garde une sorte de fluidité quand même quand on passe des uns aux autres, quoi, pour que le roman ait une sorte d'unité quand même à travers la langue, quoi.
Oui, ce qui est tout à fait le cas. Eh bien, Martin Mongin, on arrive au bout de notre première partie d'émission, donc merci infiniment.
Merci
donc
à vous.
Ce roman formidable, c'est un grand coup de cœur de la fin de l'année, enfin du dernier trimestre 2019. Donc Francis Rissin aux éditions Tusitala et l'auteur. Merci beaucoup Martin Mongin et à bientôt, j'espère.
Merci à vous.
On espère vous relire bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dans la deuxième partie d'émission. À bientôt.
À tout à l'heure après les infos.